Le vendredi après l'Ascension, nous reprenons la lecture des missions de Paul dans les Actes des Apôtres. Alors, aujourd'hui, nous découvrons quelque chose d'important dans ces missions. Paul a donc une vision de Jésus. Et il entend cette phrase: je suis avec toi. Ne garde pas le silence. Donc il est évident que c'est lié à la mission particulière de Paul. Néanmoins, sans vision peut-être, et le plus souvent sans doute, cela peut aussi nous arriver. Donc la difficulté là-dessus, c'est de considérer, de discerner la mission. Est-ce que nous sommes envoyés pour dire des choses ou est-ce que nous ne le sommes pas? La question est pas oiseuse. Hein. Voilà, vous rencontrez quelqu'un qui a une sorte de colère contre Dieu parce que cette personne a, par exemple, perdu un être cher, qui, selon les critères habituels, disons, n'aurait pas dû mourir. Je sais pas, un accident de la route à 30 ans, enfin voilà, ce que vous pouvez imaginer, une noyade, que sais-je. Et il peut arriver que des personnes soient... s'en trouve plutôt très, très virulente contre Dieu. D'abord, il faut se souvenir de ne pas... Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Il est assez grand pour le faire. Il est très grand, d'ailleurs. Et donc, nous n'avons pas à défendre Dieu, mais plutôt à écouter la personne qui est dans cette situation-là. Mais je viens au fait, il peut arriver que nous nous disions, ben voilà... quand même falloir aider cette personne, est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire? Alors vous avez des idées qui vous viennent, vous dites bon, est-ce qu'elle serait ouverte à entendre parler de la résurrection? Est-ce qu'elle serait ouverte à entendre parler de notre toute petite vie de quelques années sur Terre en comparaison d'une vie éternelle auprès de cette personne, notamment, et de Dieu? Enfin, au moins, nous pouvons l'espérer. Bref, vous pouvez trouver tout un tas de choses qui vous viennent, de prier pour cette personne, etc. Et puis là, il peut se passer quelque chose, c'est que vous allez essayer de forcer la chose. C'est-à-dire vous dire, bon, il faut que j'y aille, c'est évident. Qui est-ce qui t'a envoyé? Vous voyez, il faut discerner, quoi. Parce que là, on va peut-être mettre la personne dans un état pire qu'elle n'est. Et en voulant bien faire, naturellement. Et au lieu de ça, peut-être qu'on peut dire au Seigneur, ben voilà, si tu juges que, ben fais en sorte que... On se croise, qu'elle m'aborde, qu'elle me redise un mot. Enfin, vous voyez. Donc, tout ça, c'est un discernement pour voir si nous sommes appelés à intervenir. Là, dans le cas de Paul, c'est assez intéressant, puisque, bon, d'abord, il est envoyé. Il va parler un an et demi, apparemment, hein, quand même. Donc, ça dure un petit moment, là. Et puis, tout à coup, les Juifs, unanimes, donc d'une seule âme, hein, c'est assez rare d'avoir des phrases où on a des Juifs unanimes, des Judéens unanimes, des opposants, disons, à Paul, unanimes. Et en fait, Paul ne va rien faire. Au moment où il va ouvrir la bouche, il n'a pas le temps pour dire quelque chose. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps parce que le galion, là, le gouverneur, enfin que sais-je, le proconsul, dit « votre histoire ne me concerne pas ». Donc parfois, Dieu est tellement avec nous qu'on n'a rien à faire. Donc voilà, je trouve que c'est une expérience intéressante de voir que comment Paul réagit, mais de vous dire peut-être, de nous dire peut-être, et moi, dans des situations, bah, pas identiques forcément, mais similaires, est-ce que je suis attentif à l'Esprit Saint? Est-ce que je vis, est-ce que j'apprends à vivre de l'Esprit Saint? Dans l'Évangile, c'est un peu différent, puisque là, j'allais dire, on a l'inverse, c'est-à-dire que Jésus dit, vous allez vous lamenter, et le monde va se réjouir, tandis que là, c'était l'inverse, vous voyez. Paul ne se lamentait pas, mais c'était plutôt les Hébreux là, qui se lamentaient. Et alors Jésus prend l'image de la femme qui accouche. On est en Jean 16. Jean 16, c'est le long discours après la scène. 14, 15, 16, quoi, si vous voulez. Ce très long discours dont nous avons déjà entendu des bouts. Et là, l'Église nous le donne parce qu'en fait, ce discours, c'est en quelque sorte la Lectio Divina après la scène. Ils sortent de table à 8 heures et ils bavardent jusqu'à 23 heures. Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà, ça a dû durer un certain temps. Alors, ce sont des paroles que Jean a mises là. Est-ce que Jésus les avait dites ailleurs? Est-ce qu'en fait, il y a bien eu toute cette catéchèse, si je puis dire, de la part de Jésus? En tout cas, Jésus prend l'image de la femme qui accouche. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que ça montre que l'une des clés de compréhension du mystère de la Pâque du Seigneur, c'est la femme qui accouche. La femme est centrale dans le mystère du salut, à bien des points de vue. Bon, c'est le Christ, évidemment, qui sauve, qui est le centre. Mais le rôle de la femme est extrêmement important, puisque le Christ est né d'une femme. Et donc la femme qui accouche, c'est l'image que Jésus prend pour parler de ce qui va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la joie. Vous voyez, nous au fond, nous restons sur la croix, quoi. Voilà. Ah, c'est la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Ce qui est parfaitement juste. Sauf que le terme, c'est pas la croix. Au ciel, on ne voit pas Jésus crucifié. On voit l'agneau qui a les marques de la croix, mais qui est ressuscité. Et c'est pour ça que c'est très important à la fois de représenter Jésus sur une croix, nous rappeler qu'il nous a sauvés, qu'il a souffert, mais je pense que c'est dangereux de chercher à avoir une spiritualité crucifiée. Le terme de l'accouchement, c'est la joie. Alors évidemment, l'accouchement peut prendre un certain temps, ça je suis d'accord. Mais ce serait pas juste, je crois, de penser que l'accouchement, il a lieu après la mort. Il a déjà lieu. Il a déjà lieu au moment de la résurrection de Jésus, dont nous sommes invités à vivre. Preuve en est, à la résurrection, les apôtres vont connaître la joie. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire. Le texte grec dit même quelque chose d'un peu différent. Le texte grec en Luc 24, 41 dit « N'ayant pas foi à cause de la joie ». Mot à mot, hein, c'est du mot à mot. Hein. C'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que la joie est tellement forte que c'est même plus crédible, c'est sûr, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Donc voilà, donc la joie et puis l'ascension hier. Dans la finale de la première lecture, donc le début des Actes des Apôtres, puisque Luc nous offre de la raconter deux fois, à la fin de l'Évangile et au début des Actes des Apôtres, ils repartirent tout joyeux. Donc on voit bien que cet accouchement est source de joie dès ici-bas, à condition que nous entrions dans la vérité de cette résurrection dès maintenant. Et en fait, la femme accouche parce que l'enfant veut sortir. Bon, parfois, on provoque, si j'ai bien compris, mais... Et une fois que c'est arrivé, ben, personne ne peut faire comme si ce n'était pas arrivé. Vous voyez ? Une fois que l'enfant est sorti, il est sorti, quoi. Donc la joie, elle ne peut plus rentrer à l'intérieur, quoi. Donc en fait, notre joie, personne ne peut nous l'arracher. En revanche, pour nous, pour lesquels ça se passe, il y a ce temps d'accouchement, on peut se dire que faut-il que je lâche pour que cette joie s'ancre en moi ? Qu'est-ce que je fais qui en m'empêche de venir au jour, comme l'enfant vient au jour par l'accouchement. Et c'est décisif parce qu'il faut vraiment déjà vivre de la résurrection dès maintenant. Alors, une résurrection, comme j'ai pu le dire hier, je crois, il me semble, comme celle de Lazare, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une résurrection. Lazare, il était mort, il est ressuscité, mais qui n'est pas la résurrection ultime. Il me semble que le message de Lazare de Béthanie peut être compris comme le fait de changer de vie. J'imagine, alors je ne le sais pas, j'imagine que Lazare, quand on lui dit « tu étais mort depuis 4 jours, tu sentais et tu commençais à te décomposer », pour le coup, il se décompose, quoi. Il reste plus... Je ne sais pas si on peut vraiment rester dans la même vie qu'avant, à moins d'être dans l'incompréhension, l'ingratitude ou la moquerie. En attendant, ça ne peut pas ne pas nous impacter de revenir à la vie. Je pense à quelqu'un, une jeune femme qui a perdu la mémoire dans un traumatisme et qui subitement l'a retrouvée. Bon, beaucoup de gens priaient pour elle, etc., même si c'est à l'occasion d'une lecture... j'allais dire enfantine, entre guillemets, oui, que les choses se sont remises en marche, on est quand même touché, j'imagine, soi-même, de se dire, oula, Dieu a voulu que je vive, quoi, que je sois celle que je suis, et non pas quelqu'un d'autre qui aurait dû réapprendre je ne sais quoi. Voilà, donc qu'est-ce que nous devons lâcher pour permettre à la joie de s'ancrer en nous? Alors s'ancrer, c'est drôle, hein, puisque c'est pas fait exprès, hein, mais le final des apôtres, c'est à s'ancrer. Il s'était fait raser la tête. Bon, ça n'a rien à voir, mais ça m'amuse. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Comment est-ce qu'on peut ancrer cette joie en nous en renaissant? Et qu'est-ce qui empêche qu'on renaisse? Voilà, dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que pour chacun de nous, il faudrait lâcher pour entrer enfin dans cette certitude que Jésus est avec nous.